Actu SF, les podcasts.
Bonjour à toutes et à tous pour cette conférence, cette première conférence du matin. Anti-héros et vrais méchants, la fantaisie est parfois mal fréquentée. Donc, je vais commencer par vous présenter nos auteurs. À ma gauche, monsieur Patrick Morand, pour La Cresserelle, paru aux éditions Nemos. À son côté, nous avons Fabien Cerutti pour Le Bâtard de Cossigan, L'Ombre du Pouvoir, paru également chez Nemos. Ensuite, Aurélie Wallenstein pour Le Dieu Oiseau, paru chez Scrineo. Et à ma droite, Ed McDonald pour La Marque du Corbeau Blackwing, tome 1, paru aux éditions Bragelonne, donc Ed McDonald et sa traductrice. Donc bonjour à tous, je vais demander aux auteurs de nous présenter un petit peu leurs personnages et leur rapport au pouvoir, parce qu'on va voir que ces anti-héros ont un rapport à la fois de proximité et de distance avec le pouvoir dans leur texte, et c'est ça qui fait le sel un petit peu de leur position, et la difficulté aussi de leur position. Patrick Morand, est-ce que vous voulez commencer ?
Ça marche ? Oui, j'entends que ça marche. Alors, bonjour tout le monde. Alors La Cresserelle, c'est un personnage... la question du rapport au pouvoir est vraiment intéressante parce que c'est un personnage de paria, de marginal, dont les aventures se déroulent dans un univers, dans une région du monde qui n'est pas le sien. Donc c'est une étrangère en terre étrange. Comme elle manie la magie, qui est une puissance extrêmement dangereuse et extrêmement inquiétante dans son univers, qu'on regarde avec inquiétude ou alors dont on refuse de reconnaître l'existence, du coup elle est à la fois un personnage extrêmement puissant en réalité, mais extrêmement marginalisé et avec une légende noire qui la poursuit de manière tenace. Et elle-même est finalement une individualiste acharnée qui veut avant tout, qui se préoccupe surtout de sa propre survie et de sa propre liberté, et qui se considère d'une certaine manière du côté des forts plutôt que du côté des faibles, même si elle essaye de ne pas rentrer dans toute la mécanique du pouvoir, justement, tous les jeux de domination, de contrôle. Mais c'est aussi peut-être sa caractéristique principale, c'est que c'est un personnage qui se berce d'illusions à beaucoup d'égards, et qui justement va être amené à remettre en cause beaucoup de ce qu'elle croit être sa position dans l'univers, en fait.
Merci. Fabien Cerutti, s'il vous plaît.
Moi, le bâtard de Cossigan est d'origine, comme son nom l'indique, comme son surnom l'indique, est d'origine bâtarde. Son père était un grand noble bourguignon, mais sa mère était roturière. Et donc il a été élevé dans un village jusqu'à ce que son père le reconnaisse et que finalement il suive une formation de chevalier. Et en se rendant compte petit à petit qu'il disposait de capacités étranges et qui dépassaient la norme. Et en même temps se rendant compte que son oncle qui dirigeait le comté où il vivait lui était extrêmement hostile, essentiellement à cause de son origine bâtarde. Donc il s'est formé aux armes, à la chevalerie. Lorsque son père est mort, il avait à peu près 18 ans, quelque chose comme ça. Tout ça, c'est pas dit dans les livres, mais je vous le raconte. Parce que c'est important pour comprendre qui il est. Donc il a eu le choix entre le cercueil et l'exil. Et comme il a jamais vraiment aimé les endroits confinés, il est parti. Et il a fait ce qu'il pouvait avec ce qu'il savait faire. Autrement dit, comme il avait été formé au métier des armes, il a erré un petit peu. Puis au bout d'un moment, il a rejoint plus ou moins facilement une compagnie de mercenaires. Il est parti avec eux en Italie. Il a combattu sur de nombreux champs de bataille. Comme il avait effectivement des capacités. Alors lui, ses capacités, elles sont classiques dans la littérature imaginaire ou sur ce genre de personnage. Il a ce qu'on appelle du sang noir, qui est probablement le sang des dieux anciens. Et il se régénère extrêmement rapidement. Mais c'est très mal vu par l'Église et l'Inquisition. Donc ça peut être dangereux pour lui. En tout cas, comme c'est quelqu'un qui est plutôt malin, plutôt roublard, eh bien, il a réussi à gravir les échelons un petit peu dans la compagnie de mercenaires. Et au final, lorsqu'il a servi sous plusieurs grands comtes d'hôtières en Italie, c'est-à-dire les comtes d'hôtières, les capitaines de mercenaires, et quand le dernier est mort, eh bien, il a pris sa place. Et il avait une idée spéciale pour la compagnie. Il voulait en faire une compagnie d'espionnage particulier, avec seulement réduite à peu de membres, mais qui ne travaille que pour les plus grandes maisons d'Europe, qui proposent ses services pour résoudre de grands problèmes, manipuler l'Église, faire tomber des grands seigneurs ou des choses comme ça. Et c'est là qu'on arrive à son rapport au pouvoir. Voilà. Désolé. Mais c'est, voilà, ça ne vient pas, ça tombe pas du néant, en fait. Il a tout un passé qui l'amène là. Il a, évidemment, comme beaucoup de héros ou d'anti-héros dans ce genre de cas, souvent pas eu le choix à un moment de sa vie. Et ensuite, le choix, il l'a construit lui-même. Il a choisi d'utiliser ses capacités pour réussir. Et sa marque de fabrique, c'est d'utiliser tout ce qu'il peut utiliser pour réussir et arriver à ses fins. La manipulation, le chantage, mais aussi la sympathie, les discussions, les réseaux, le charme, les combats, l'assassinat s'il le faut. Enfin, il utilise tout ce qui est à sa disposition. Mais s'il fait assassiner quelqu'un ou s'il assassine lui-même quelqu'un, il sait que c'est mal. Il s'en rend compte et il trouve pas ça bien. Mais c'est quand même c'est ce qu'il faut faire. Donc il est guidé par ce qu'il veut faire et ce qu'il faut faire. Il est toujours sur le choix. Il choisit d'enlever la vie. S'il peut faire autrement, il fait autrement. S'il peut pas faire autrement, ben il le fait et il regrette.
Un dernier point, juste pour compléter votre présentation. Le texte passe en 1339, c'est très précis.
Le premier tome, oui.
Voilà, le premier tome. Et en même temps, il y a des elfes, alors méfiance.
Ah bah oui. Oui, mais là, sur le rapport au pouvoir, je ne sais
non,
pas
non,
si...
Non, non, bien sûr. C'est juste pour...
Je vais garder ça pour plus tard, éventuellement.
Voilà, pour le cadre. Aurélie Wenenstein, pour le dieu oiseau, est-ce que vous pouvez nous parler de Faolan ?
Alors en fait, effectivement, le thème du pouvoir, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup en tant qu'auteur. Je pense que je l'ai déjà traité un peu aussi dans Le Roi des Fauves. La volonté de puissance, c'est quelque chose que j'aime bien traiter dans mes récits. Et l'emprise. Dans Le Dieu Oiseau, en fait, tous les 10 ans, ça se passe sur une île. Il y a 10 clans sur l'île. Et tous les 10 ans, il va y avoir une compétition qui va opposer les 10 clans, un champion. Et le vainqueur de la compétition... va permettre à son clan de régner pour les 10 années à venir. Et notamment, le jour de la victoire, ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que ça peut être de tuer, de réduire en esclavage, de violer, et même de manger leurs adversaires. Donc en fait, il y a 10 ans de ça, avant le roman, le héros du récit a été réduit en esclavage par le fils du clan qui règne, le clan régnant. Donc là, vous voyez bien qu'en fait, il va y avoir vraiment un duel entre ces deux hommes, entre le maître et l'esclave. Pendant 10 ans, le héros du roman, il en a bavé, il en a pris plein la gueule, il est en miettes. Le roman commence, il est en 1000 morceaux, il est complètement fracassé. Et est-ce qu'il va être capable de se relever, de se reconstruire, de rassembler les morceaux ? Parce que 10 ans ont passé et la compétition arrive. Et il a la possibilité, s'il se qualifie, d'être champion et de rebattre toutes les cartes. Donc ça va être l'enjeu principal du roman. Est-ce qu'il va réussir à se qualifier ? Est-ce qu'il va pouvoir enfin prendre sa revanche sur les 10 ans qui se sont écoulés et sur tout ce qu'on lui a fait subir pendant 10 années ? Donc vous avez un rapport de pouvoir qui est très 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 fort et très au cœur du roman entre le maître et l'esclave. Il faut savoir que Faolan, donc au début du roman, il a vraiment, sur le pouvoir, il n'en a aucun. Et voilà, est-ce qu'il va réussir ? Est-ce qu'il en est capable ? Est-ce que il n'est pas trop cassé pour ça, pour pouvoir se relever ? C'est vraiment un roman aussi... Moi, j'ai voulu travailler sur les questions de pouvoir, certes. C'est aussi un roman qui parle des états de stress post-traumatique. C'est vraiment un personnage qui est traumatisé.
Et en plus, il y a une sorte de un peu de jeu pervers de son maître qui, justement, lui sait que Faolan veut se présenter aux épreuves et qui va tout faire aussi pour l'en empêcher.
Oui, oui. Lui, le maître, souhaite être le champion, le futur champion de la compétition. Et Faolan aussi, parce que c'est sa seule manière de s'en sortir. Si jamais il ne réussit pas, il est foutu, il est mort. Donc il faut qu'il y arrive.
Merci. Ed MacDonald, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de Rialt Galaro, votre capitaine de mercenaires dans La Marque du Corbeau?
Okay, so good morning. So in Blackwing, power is a central theme throughout the book, and the protagonist, to understand him, you kind of have to understand the world in which he lives and what the greater powers are. There are on each side of a war, there are a very small number, four on one side, six on the other, of very superpowered godlike beings. But these beings refuse to fight each other, because if they fight, they might risk their own lives. And if you're a god, you just don't do that. You've got minions. You've got people to do it for you. So they really, the humans are all just pawns in their malevolent schemes. And these aren't nice gods. They are not your friends. They don't care about you. If you die, well, you're an ant. That's, you know, you're this big. So the hero of Blackwing,
I'll take over.
Alors, bonjour. Alors, dans Blackwing, le pouvoir est au centre du livre. Pour comprendre un peu le héros du livre, le protagoniste, il faut comprendre le monde et le pouvoir. En fait, il y a dans le monde du livre, quatre d'un côté et six de l'autre, êtres semblables à des dieux. Et ils ne vont pas se battre, parce que si on se bat, on risque sa vie, tout simplement. Donc, comme ils ne veulent pas mourir, ils demandent à leur sbire, à leur mercenaire, de se battre pour eux. Les héros ne sont en fait que des pions dans un échiquier. Les dieux ne sont pas sympas dans ce livre. Et maintenant, on va passer aux héros.
Your job is super hard. I am really impressed. So Rialt Galaro is a disgraced nobleman who at some point in his past, 20 years ago, he suffered a massive disgrace, and he is at the bottom of the pile, really. He's a sort of a functioning alcoholic. He has few friends, widely despised. But he 20 years back, he made a deal with one of the godlike powers where he agreed to serve for something that he got, which I won't go into. But he got something, and in exchange for that, he basically has to do whatever he is told. And his orders from the gods come very intermittently, maybe once every 3-5 years, where the tattoo on his arm will tear itself out of his arm, shout abuse at him for 30 seconds, and then he has to figure out what he's got to do to save the world. They're not helpful gods. They don't really care. But his relationship to power, you kind of get the idea the powers hate him. He's clearly being used, but at the same time, he plays a vital role, almost like a secret police in doing the dark things that have to be done to keep people safe.
Right. Donc mon héros est en fait un noble qui est tombé en disgrâce. Il y a 20 ans, il a fait quelque chose qui lui a fait perdre tout son statut. Il est tombé tout en bas de l'échelle. C'est vraiment quelqu'un qui est alcoolique, il a peu d'amis, il est méprisé par beaucoup de gens. Et il y a 20 ans, il a accepté un pacte avec les dieux qui lui ont offert quelque chose. Je ne vais pas rentrer là-dedans pour ne pas déflorer l'intrigue, mais en échange de ce qu'il a obtenu des dieux, il doit faire ce que les dieux lui demandent de le faire. Et il lui envoie des ordres tous les 3 ou 5 ans à peu près, pas super souvent. Et il a un tatouage sur le bras, un tatouage de corbeau, qui sort du bras et pendant 30 secondes environ se met à l'insulter. Et il doit comprendre ce qu'il a à faire pour sauver le monde. Alors, ce n'est pas des dieux qui aident, hein, c'est pas des dieux, non, au contraire, les dieux le détestent, ils l'utilisent. Et lui, il a un rôle essentiel, il est une sorte de police secrète qui travaille pour sauver le monde.
J'ai une question donc pour tous nos auteurs. Est-ce que ce choix d'un type de personnage hérissé de pointe, est-ce que ça vous permettait d'imaginer une intrigue plus complexe qu'avec un héros lisse?
Oui. Pour développer, ouais, clairement, la cresserelle, ce qui m'intéressait, c'était, bon, déjà, quand j'ai inventé le personnage, je voulais la situer un peu dans une tradition qui est vraiment la tradition de la sword and sorcery, avec des héros comme Conan, comme Fafnir le sorcier gris, comme Elric. Donc des personnages qui sont justement pas des héros lumineux, qui luttent pour le bien contre le mal, mais qui essayent de survivre au jour le jour. Et qui sont relativement individualistes, et quand ils sauvent le monde, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas le choix, ou un peu par erreur, ou parce que c'est la seule chose à faire. Et ce qui m'intéressait avec la cresserelle, c'était justement de créer un personnage qui avait tout un tas de problèmes inclus dans sa description, en fait, et qui permettait de générer du récit, en fait, juste par les espèces de contradictions internes qu'elle avait. C'est-à-dire que c'est une sorcière, une magicienne, dans une terre qui en a peur. Elle a signé une sorte de pacte avec une créature extra-cosmique ou démoniaque qui lui donne de la puissance mais qui en même temps l'opprime. Elle doit tuer pour assouvir cette créature. C'est une espèce de mercenaire ou d'assassin, mais qui en même temps ne se sent pas elle-même particulièrement maléfique. Elle s'intéresse pas de l'opinion qu'on a d'elle, mais en même temps elle essaye de trouver du contact humain. Donc il y avait tout un tas de contradictions qui étaient générées assez facilement et qui permettaient très vite de lancer du récit et de créer de l'histoire, en fait, rien qu'en la confrontant au monde qui l'entoure, en fait, et qui la méprise, qui la craint.
Merci.
Dans mon cas, le bâtard de Kosigan, j'ai pas du tout traité tout ce que je vous ai raconté tout à l'heure, c'est donc secret, hein, ça reste entre nous. En revanche, j'ai commencé à l'utiliser quand c'était lui qui donnait les ordres. Ce qui m'intéressait, c'était c'était en tout cas de voir quelqu'un qui manipulait, qui dirigeait, qui construisait les plans. Qui était partie prenante de l'action, mais qui en même temps avait des gens avec lui qui l'envoyaient sur telle ou telle action, et de manière à ce que le lecteur voit les ordres qu'il donne, mais sans toujours savoir à quoi ça correspondait, et de manière à construire une histoire où en même temps on voyait par les yeux du héros et où en même temps on savait pas du tout pendant longtemps où il voulait en venir et ce qu'il voulait atteindre. En revanche, on voyait bien les actes ou les actions qu'il entreprenait, on pouvait les juger, on voyait ce que lui-même en pensait, et ça me plaisait d'envisager ce rapport-là, d'avoir un héros qui soit à l'origine des choses, qui ne subisse pas un destin ou qui ne soit pas le jeu de d'autres personnes qui cherchent à lui faire faire des choses. Non, c'est lui qui décide, c'est lui qui gère, c'est lui qui guide, c'est lui qui réussit ou échoue.
Aurélie Wellenschein.
Merci. C'est marrant sur ce que tu dis là, au niveau des choix. Moi, j'ai donc un personnage qui est esclave, mais je pense qu'il est pas du tout passif. En fait, c'est vraiment un personnage qui est vraiment super actif. Oui, non, mais je rejoins ton point de vue, et qui va, malgré tout ce qui lui arrive, il arrive quand même à prendre sa vie en main. Quand tu disais un personnage hérissé de pointes, je pense que c'est aussi ce qui les rend humains. C'est ça qu'on souhaite lire, j'imagine, aussi dans les récits contemporains. Des personnages qui sont dans la nuance et qui font des choix, parfois peut-être pas les meilleurs choix, mais c'est des choix humains, tout simplement. Donc des personnages qui ont leurs faiblesses, leurs forces, qui sont plus dans le gris. Moi, il y a une phrase que j'aime bien, alors c'est une phrase de Zazie dans The Voice. Elle dit, quand elle coach certains de ses candidats, elle dit « tu éclaires les ombres ». Et ça, c'est un concept qui me parle et que j'aime beaucoup. Éclairer les ombres d'un personnage. Donc on est à la fois dans la lumière et dans les ténèbres, et de se maintenir comme ça un peu à la lisière, c'est ça qui me plaît. Est-ce que tu as la même question sur les méchants après?
Tu veux répondre directement? Tu peux répondre directement sur les méchants si tu veux.
Bah, je sais pas, si tu la prévois, je garde mes idées.
Comme, pas forcément, mais...
Ok, donc en fait, je me suis dit que... Au niveau de la culture en général, on assiste quand même depuis 15 ans à peu près, on a pris un virage. C'est-à-dire, moi, je pense surtout ça avec les séries télé. C'est-à-dire qu'avant, on avait des héros plutôt flics, des héros très positifs, des héros classiques qui allaient sauver le monde et tout ça. Et que depuis une quinzaine d'années... Alors hier, mon copain me faisait remarquer que c'était à partir du 11 septembre à peu près qu'il y a eu un virage qui s'est fait. Alors je ne sais pas si c'est ça qui a tout changé, mais maintenant, dans la fiction, on s'intéresse beaucoup plus aux méchants. Et on peut même, ça peut être même lui qui est au cœur du récit. Je pense à Dexter, hein, évidemment, ou même à Breaking Bad, le personnage, la trajectoire qu'il a. Alors en fait, si vous voulez, dans la narration... Au départ, dans les contes, il y avait toujours le méchant. Mais le méchant était juste méchant pour être méchant. C'est-à-dire il était là pour faire le mal. En fait, c'est l'archétype de la méchante sorcière qu'on va détruire parce que le héros, il est gentil, il va détruire la méchante sorcière. Et donc là, en fait, nous, dans la narration, tout a changé. Mais même, c'est même propre dans son bouquin là, qui parle de ça, qui dit comme ça change. Et comme... en fait, maintenant, on va aussi interroger le passé du méchant. Et bon, moi, Faolan, c'est le héros. Là, il est vraiment dans une position de héros et pas d'antagoniste. Mais voilà, de parler de son passé, de son trauma, comment il en est arrivé là et comment sa trajectoire va se faire. Et par exemple, ça, c'est quelque chose que je trouve très intéressant dans Dexter. C'est comment on va humaniser le héros en parlant de sa vie intime. Parce qu'il a vraiment le côté psychopathique, avec le passager noir et tout ça, qui lui donne la pulsion de tuer. Mais à nos yeux, il est sympathique, parce qu'on va rentrer dans son intimité. Son fils, sa sœur. Et ça, c'est assez nouveau, en fait. Parce qu'avant, dans les séries, dans Dallas, dans JR, je suis pas sûre qu'on incarnait vraiment le méchant comme ça. Donc voilà, maintenant, c'est vraiment assez nouveau.
On est sur les archétypes, là.
Voilà, on était vraiment sur un archétype. Et maintenant, on a complètement dépassé ça dans la fiction télévisuelle de nos jours. Et ça, je trouve ça très intéressant. Et que voilà, le méchant arrive sur le devant de la scène dans cette position plus nuancée. Et encore une fois, d'éclairer les ombres.
Merci.
Tout ça, c'est la faute de Dark Vador.
I think a good place to start as a writer when you're trying to create a character who has depth and nuance is to say everybody in the story believes they are the hero of the story, and it doesn't matter whether as the writer you have made them the hero or the villain believes that they are the hero. Or they're not running around being evil for the sake of being evil, and what evil means... is different depending on who you ask. One person's freedom fighter is another person's terrorist. And in Blackwing, I think there are three things that I wanted to apply to the characters. Everybody is torn between three different effects on their character, which is what you want to do, what you feel you have to do, and what you feel you should do. And if we're doing what we feel we should do, we're probably being good. If we're doing what we want to do and we're being selfish, we're probably being not so good. And everybody is at war with this selfish side of themselves and the altruistic good side of themselves. So in Blackwing, Ryholt is... what he would like to do is sort of put his face down on a barroom table and just like put a bottle of brandy in his mouth and just live on that forever. That would be nice. But ultimately he has the heart to grudgingly admit that He's capable of more than that, and he probably ought to be doing things. And the point at which I think you can have these characters who they make bad choices, they do bad things to people. And the reality is, we like to imagine knights in shining armor. If you kill people, you're probably not the best person all the time.
You want to go? Yeah.
Alors, une chose qui est importante, je pense personnellement, quand on commence à écrire et qu'on veut des personnages nuancés, contrastés, des personnages profonds, il faut s'assurer que tous les personnages pensent qu'ils sont le héros de l'histoire. Peu importe qu'ils soient gentils ou méchants. La question d'être mauvais ou bon, ça, c'est vraiment une question très personnelle. Pour certains, certains pensent que on peut être le terroriste de quelqu'un, peut-être le combattant de la liberté d'une autre personne. Et c'est dans Blackwing, il y a trois choses que chaque personnage a qui sont en conflit. Il y a ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils devraient faire. Alors si on fait ce qu'on devrait faire, dans l'ensemble, on est plutôt bon, on est plutôt bien. Si on fait ce qu'on veut faire tout le temps, bah on n'est pas si gentil que ça quand même. Et c'est ce combat entre l'égoïsme et ce qu'on fait du point de vue altruiste. Dans Blackwing, Ryald, lui, ce qu'il voudrait, c'est tout simplement s'asseoir à une table de bar et avoir une bouteille d'alcool dans la bouche qu'il boirait non-stop. Ce serait super sympa pour lui. Mais bon, il se rend bien compte qu'il ne peut pas que faire ça. Et en fin de compte, il suit son meilleur sentiment. Donc, mes personnages font des choix aussi, pas toujours des bons choix. Et en réalité, le héros, c'est jamais le chevalier sur son cheval blanc, etc. Non. C'est plus compliqué que ça. En réalité, si on tue des gens, c'est qu'on n'est pas si bien que ça, dans le fond.
D'accord.
Est-ce que ce choix d'avoir un personnage central pétri de violence, est-ce que c'était aussi pour vous une façon de renouveler le genre, ou est-ce que vous vouliez aussi explorer un type de personnage nouveau dans votre écriture ?
C'est une bonne question, et puis dès qu'on commence à parler de renouveler le genre, ça peut donner l'air d'être un peu « je viens renouveler le genre ». Donc, je ne pense pas que j'irai jusque-là, mais c'est sûr qu'avec le personnage de la Cresserelle, j'ai voulu voir jusqu'où je pouvais aller en fait, en poussant le personnage le plus possible vers la noirceur, vers le tout ce qui est problématique, la dépeindre comme une méchante, perçue comme une méchante justement, et voir jusqu'où on peut aller, mais quand même créer un personnage nuancé et qui peut être le protagoniste d'une histoire quand même, et qui peut être un personnage qui puisse avoir un parcours pas forcément héroïque, mais au moins un parcours peut-être un peu rédemptif, peut-être. Hein. Je dis pas, pas nécessairement complètement réussi. Donc c'est vrai que je me suis un peu amusé à aller le plus loin possible et à me choquer moi-même en fait, en faisant faire des choses à la Cresserelle où je me disais non, ça va pas, c'est pas possible. J'adhère plus du tout au personnage et pourtant j'adhérais quand même. Moi, j'aime énormément la Cresserelle. C'est un personnage pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Souvent les lecteurs me disent oh là là, elle est vraiment sombre et tout. C'est vraiment la méchante de l'histoire et je leur dis non, mais vous comprenez pas. Elle a un passé très compliqué, etc. Et le roman fonctionne par pelure d'oignon justement pour révéler un peu les différentes raisons pour lesquelles elle est comme elle est, et s'il fonctionne bien, le lecteur à la fin lui aussi se dit quand même, cette pauvre Cresserelle, elle l'a difficile.
Oui, parce qu'on peut quand même comprendre ce qu'elle fait, alors que l'entité extraterrestre qui la pousse à tuer, on n'a pas justement d'infos. Pour moi, c'est plus ça le vrai méchant.
Ah, mais exactement.
C'est pas, voilà.
Oui, si on parle de méchant, moi justement, les personnages humains dans la Cresserelle, il n'y a que des humains, il n'y a pas de race surnaturelle. Les humains sont tous plein de défauts, ils font des mauvais choix, ils ont des mauvaises opinions sur la réalité qui les entoure, parce que c'est un monde qui est très compliqué à interpréter, où tout peut être interprété dans un sens ou dans un autre, c'est très instable. Et donc, ils ont tous plein de défauts, ils sont tous très problématiques, mais aucun n'est 100% radicalement mauvais. Et alors que l'entité de l'outre-monde, donc l'espèce de créature extracosmique qui contrôle ou qui a une relation compliquée avec la cresserelle, elle représente une sorte de mal absolu, en fait, ou du moins un autre absolu dont les motivations sont complètement incompréhensibles et vont être interprétées comme mauvaises, en fait. Et moi, ça m'intéressait justement de dire, voilà, en tant qu'être humain, on n'est jamais, justement, on n'est jamais 100% mauvais, ça n'existe pas, le mal absolu. On est toujours le héros de sa propre histoire, comme disait Ed tout à l'heure. Et c'est ça qui sauve un peu la cresserelle, d'une certaine manière, c'est que quand même, il y a pire qu'elle.
Fabien Cerruti ?
Et tu as déjà assassiné beaucoup de tes élèves ou... quelle était la question ?
La question, c'était, pardon, est-ce que le personnage pétri de violence, pour vous, c'est une façon de renouveler le genre ? Ou ouais, est-ce que dans votre écriture, c'était quelque chose que vous aviez envie d'explorer ?
Non, je suis d'accord avec Aurélie quand elle dit que les héros ont évolué en personnages beaucoup plus humains. Et en fait, c'est dans cette vague-là, je pense que ça représente la sensibilité de notre époque et une évolution, on va dire, un peu globale dans cette direction. Pas du tout le sentiment, plutôt le sentiment de m'inscrire dans une évolution qui me paraît qui me paraît louable ou souhaitable, mais en le disant, je me dis que après quel exemple ou comment est-ce que c'est reçu de la part du lecteur ? Bien sûr, sans doute avec plaisir, j'espère. Mais en même temps, est-ce qu'à force de voir partout dans les films, les livres, etc., des personnages qui sont placés dans la figure du héros en commettant des actes répréhensibles, pour le moins, est-ce qu'au final, quand il y en a un, c'est original, intéressant, sympathique, quand ils sont tous comme ça, est-ce que finalement ça n'oriente pas notre société vers davantage justement d'égoïsme, de recours à la violence pour régler ses problèmes, ou de manipulation, ou est-ce que finalement on n'est pas un petit peu aussi responsable, nous les auteurs, un petit peu d'une évolution négative de notre société et de notre monde? Eh bien, ça, la question peut aussi se poser, je pense.
Mais j'aime quand même bien mon personnage.
Mais est-ce que c'est pas la catharsis, justement ? Moi, je crois que dans toute cette violence qu'on développe dans nos textes, ça nous permet aussi de... Peut-être de quelque chose qu'on ferait pas dans la réalité, évidemment, mais là, qu'on explore à travers la fiction, ces rapports de force extrêmement durs et violents. Donc, je sais pas, moi, je verrais plutôt du côté de la catharsis plutôt que de dire qu'on... rend le monde un peu plus sombre. Non, c'est vrai, c'est une question intéressante. Alors, au niveau du choix que j'ai fait, moi, de travailler à travers le dieu oiseau, le syndrome, les états de stress post-traumatique, c'était en regardant Walking Dead. Je me suis dit que c'était incroyable tout ce qu'ils prenaient dans la gueule et que moi, à leur place, je crois que je serais roulée en boule dans un coin et je voudrais plus rien faire et j'arriverais plus à bouger. Donc et aussi je me suis dit, mais ouais, c'est vrai que dans nos romans de fantasy on leur en met plein la figure à nos personnages, on n'arrête pas de les casser et en fait on s'intéresse aux conséquences physiques, on dit ouais il est blessé et tout ça, mais est-ce qu'on s'intéresse vraiment aux conséquences psychologiques et au niveau du trauma? Donc c'est vraiment ça que je me suis dit, bah tiens, dans le dieu oiseau je vais partir de ces 10 ans en arrière dont c'est un souvenir pour le personnage, c'est-à-dire que j'en parle pas des 10 ans qu'il a. On le vit pas dans le roman, ça commence 10 ans plus tard, donc il est traumatisé. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va arriver dans le récit, c'est déjà arrivé. On en est là, et comment on se relève, c'est sur la résilience ou pas. Donc c'était ça le thème qui m'a guidée dans l'écriture du roman, et voilà, en me posant la question de dire est-ce qu'on s'intéresse suffisamment aux conséquences psychiques de nos personnages de fantasy qui sont quand même très soumis à des conflits violents. Voilà. Bon, moi, il faut savoir que je travaille en psychiatrie à côté. Et je pense que ça a aussi pas mal irrigué le texte au niveau de tous ces symptômes et d'être aux limites des symptômes psychotiques.
Merci. Ed ?
I wouldn't like to suggest that I've done anything incredibly outlandish to the genre. That would be like... but I think what we're seeing is that there have always been writers taking a darker side of characters. I think 1984, Glenn Cook published his first novel, The Black Company. Incredibly dark. No light in the whole book. But I think what we're seeing is perhaps that as science fiction and fantasy has sort of evolved and progressed as a genre, people like me who were born in the early 80s have grown up passionately loving sci-fi and fantasy. But what we were reading when we were 10, 11 years old has to grow up as well. We can't read the same books, and we want to see something that is more realistic, more challenging, and that better reflects the real world that we know and we live in. And the older you get, the more confusing everything in life becomes, because you just realize nothing is easy and nothing is black and white. There's no simple answer to the world's problems. So I feel that when we see these anti-hero, darker characters, they're not necessarily darker. They're perhaps just more realistic to the people we see around us, the motivations of politicians, of family members, of everyone we know. And I think it's just a maturing of the type of books we read, which doesn't mean I don't love young adult books as well, where sometimes it's a little bit simpler.
Alors. Bon, je ne prétends pas que j'ai révolutionné le genre, loin de là. Mais voilà, il y a toujours eu des écrivains qui ont créé des caractères plus sombres. Prenez l'année 1984, par exemple, quand Glenn Cook a écrit un livre du nom de The Black Company, la compagnie noire, qui est un livre très sombre. Il n'y a pas une lueur dans le livre. La science-fiction et le fantasy, c'est un genre qui commence à se développer. Personnellement, je suis née dans les années 80. J'ai grandi en lisant énormément de science-fiction. Et quand on lit à 10, 11 ans, on ne lit pas le même style de livre que quand on est un adulte. Quand on est un adulte, on veut des livres plus réalistes, qui sont dans une certaine mesure plus difficiles, qui reflètent mieux le monde, parce qu'on a grandi, tout simplement. Alors on veut des choses plus complexes. On sait que le monde est complexe. Le monde se complexifie au fur et à mesure qu'on grandit. Plus rien n'est tout noir ou tout blanc. Il n'y a pas de réponse simple. Et c'est un peu pour ça que les anti-héros commencent à nous plaire, parce que c'est pas qu'on devient plus sombre, plus noir, non, c'est qu'il est plus réaliste. Le monde est complexe, les hommes politiques sont complexes, les femmes politiques également, les membres de notre famille sont complexes, tous ceux qu'on connaît sont complexes, personne n'est tout noir ou tout blanc. C'est ça, bon. C'est pour ça qu'on est attiré par ce type de fantasy au fur et à mesure qu'on grandit. Alors, ça ne veut pas dire que les livres pour jeunes adultes, pour ados, ne soient pas quelque chose qui me plaît. J'aime encore les lire de nos jours parce que justement, c'est plus simple et c'est réconfortant.
Vos personnages ont en commun le fait d'être des personnes désabusées sur leur monde, sur leur influence, sur le monde. Et en même temps, est-ce que ça permet pas aussi une certaine fraîcheur, hein? C'est-à-dire que quand ils s'attachent à quelqu'un, comme justement c'est des personnages très réalistes et très très désabusés, en fait, ça donne une certaine fraîcheur. Je pense par exemple dans La Cresserelle, La Cresserelle finit par s'attacher à Mémoire, par exemple, alors qu'au départ, c'était pas gagné, quoi.
Oui, effectivement, La Cresserelle C'est un personnage. J'ai une lectrice qui m'a dit que la cresserelle c'était un fondant au chocolat, c'est-à-dire qu'un extérieur très dur, mais au centre absolument pas. Mais c'est un personnage qui elle refuserait de l'admettre, mais elle a soif de contact humain en fait. Mais malheureusement, à cause de son statut d'étrangère, de paria, de tueuse, de mercenaire, etc., elle est toujours dans des relations de pouvoir avec les personnes avec qui elle va entrer en contact. Des personnes qui veulent l'employer, l'utiliser, la tuer, l'exploiter, la manipuler, etc. Et lorsqu'elle va rencontrer le personnage qui ne s'appelle pas Mémoire au début, mais ça je ne spoil pas, mais il y a un changement de nom de personnage pour des raisons un peu traumatiques. Mais lorsqu'elle rencontre ce personnage, c'est ce personnage de Mémoire est complètement en dehors des jeux de pouvoir aussi. C'est une bibliothécaire qui travaille dans la bibliothèque privée d'un potentat local. C'est une bibliothèque souterraine, donc symboliquement elle est même détachée du monde de la surface et de ses jeux de pouvoir et de politique, et elle est uniquement dans ses livres, dans la connaissance, dans le plaisir de la lecture. Et quand la cresserelle la rencontre, effectivement ça va être une autre personne marginale, paria, mais complètement innocente d'un certain point de vue, qui est complètement détachée de tous ces jeux de pouvoir et de destruction. Et est-ce que c'est un reflet de ce qu'elle aurait voulu être, ou est-ce que c'est quelque chose à quoi elle pourrait aspirer, ou quelque chose qu'elle veut protéger justement, qu'elle estime non corrompu par le monde qu'elle connaît, mais en tout cas ça va déclencher, oui, un attachement extrêmement vif, et qui va devenir très problématique lorsque Mémoire sera confrontée au potentiel destructeur de la cresserelle, évidemment, parce que la cresserelle fait partie de ces personnages comme le roi Midas, qui, alors, sauf que la cresserelle ne transforme pas en or tout ce qu'elle touche, elle fait mourir tout ce qu'elle touche, entre guillemets. Hein. Ouais, voilà.
Alors, le bâtard de Kosigan, l'essentiel de son affection est quand même centré sur lui-même et sur ce qu'il souhaite obtenir. Alors maintenant, il a quand même une certaine loyauté envers ses hommes, c'est-à-dire qu'il ne les sacrifie que quand vraiment, vraiment, il ne peut pas faire autrement. Après, sur la fin de la série, là, avec le tome 3 et le tome 4, il rencontre quelqu'un dans une des cours du Saint-Empire romain germanique, une jeune femme, une comtesse qui est mariée à un comte qui a 40-50 ans de plus qu'elle. Et il trouve ça, franchement, c'est pas normal. Elle va l'attirer de plus en plus, et ils vont se croiser, on va dire. Se croiser de plus en plus, et dans le tome 4, se croiser de plus en plus en plus. Et il va commencer à se poser des questions sur, justement, mais qu'est-ce qui peut bien battre à l'intérieur de sa poitrine ? Je ne peux pas vous livrer la fin, parce que ça va être une espèce de bras de fer intense, à la fois psychologique et physique, assez, assez complexe. Mais à la fin, il s'en tire ou pas.
Il lui faut 4 tomes, hein, quand même.
Oui, il est prudent.
Mon récit est basé sur une relation très duelle entre le maître et l'esclave. Je ne vais pas parler trop de là, parce qu'après ça va spoiler. Par contre, le héros tient aussi sur les nerfs, parce qu'il a les animaux. C'est-à-dire qu'il est dans une situation absolument abjecte, affreuse. Au niveau des humains, tout le monde l'opprime, les hommes l'oppriment. En revanche, c'est lui qui s'occupe des chiens, de la meute de chiens de chasse. C'est lui qui s'occupe des faucons de chasse. Et il ne monte pas des chevaux dans mon univers, il monte sur des espèces de très très grands bouquetins. C'est lui qui s'occupe des animaux. Et les animaux représentent une espèce de contrepoint affectueux qui lui donne de l'amour, cet amour qu'il n'a plus de la part des hommes. Donc l'innocence des animaux et cet amour absolument innocent, et tellement ils ont des cœurs tellement énormes, les chiens, les oiseaux, c'est peut-être une relation un peu différente, mais en tout cas avec les chiens, que ça lui permet de dépasser ça sur les 10 ans qui passent en esclavage, d'arriver de tenir grâce à la relation qu'il tisse avec les bêtes.
Okay, so from the cover, you would not think this was a romance book. but it is. Got a lonely man in a desert. I think that all good books are ultimately about relationships between people, more than magic and dragons and swords. They are about how people interact, and because that's what makes us care about the outcome and why it matters. And I've said all along that Blackwing is a love story in an almost Jane Austen style. If Jane Austen's characters were like kick-ass wizards, had sword fights, and were cursed all the time.
Bon, alors quand on voit la couverture du roman, on a un peu de mal à penser que c'est une histoire d'amour, hein. Voilà, alors un type tout seul dans le désert, ouais, bon, c'est pas une histoire d'amour. Mais pour moi, les bons livres, les très bons livres, ce sont des livres qui montrent les relations humaines. Alors, oui, c'est pas la magie, les dragons, les épées qui font un bon livre. Non, c'est vraiment les interactions entre les personnages. Bon, je vais vous étonner, mais Blackwing, c'est une histoire d'amour. Il y a de l'amour. C'est digne d'un roman de Jane Austen. Bon, un roman de Jane Austen où on se bat et tout, mais c'est quand même un roman de Jane Austen.
I think that when you're writing a darker, harder type of character, if they don't have something that we can latch onto and think, I can see the humanity beneath the tough, hard, killing exterior, then the character is not full. So you give your character friends who they passionately want to help. You give them someone that they don't want to be in love with, but they can't help but love that person. And I think that's what stops them being the villain, ultimately. The villain is the person who does not have friends. And when they love selfishly, rather than altruistically.
Donc, je pense que quand on écrit sur un personnage dur, sombre, eh bien, si on ne donne pas quelque chose auquel le lecteur puisse s'accrocher, veut dire qu'on ne peut pas rentrer dans le personnage en tant que lecteur. Alors, pour que ce personnage nous ait quelque chose qui fasse qu'on tienne à lui, on lui donne des amis qui seraient prêts à faire n'importe quoi. On lui donne un amour dont il ne veut pas au départ, mais auquel il tombe amoureux à contre-cœur en quelque sorte. Et ça fait que non, le personnage si sombre n'est pas méchant. Parce que les méchants, dans les livres, ils n'ont pas d'amis. Et quand ils ont de l'amour, c'est de l'amour égoïste.
On voit Galaro qui est prêt à aller très loin pour sauver l'une de ses lieutenantes, Nen, pour qu'elle survive. Et c'est là qu'on mesure qu'il a un discours par rapport à lui-même très dur et qu'en fait, il n'est pas si monolithique que ça.
Yes. I think characters need to be that complicated, and as I say, it's that connection through, effectively, the darker a book you write, the more room there is in it for love to come through and for human goodness to come through. I don't know if here you use the term grimdark to describe things. I get described as grimdark. I don't think that I write grimdark books, because I always say my books are about heart and about the ultimately what is going to win through the badness is love for your fellow humans and being prepared to sacrifice for the greater good.
Alors, je pense que les personnages d'un roman doivent être complexes. Et je pense qu'il y a un véritable lien. Plus un livre est sombre, plus ce livre a de la place pour l'amour, justement. On parle souvent de livres avec une expression dont je ne crois pas qu'il y ait de traduction en français, sombre
gris. Je ne sais pas s'il y a une expression littéraire en français. C'est grim, dark. Grim, c'est un peu crasseux, sale et sombre, dark. Mais moi, je ne pense pas que j'écrive des romans grim, dark, justement. C'est une histoire sur la volonté de vaincre le mal. C'est aussi une histoire où il y a de l'amour. Et c'est pour cet amour qu'on est prêt à se sacrifier.
On pense au départ que la survie de ces personnages, c'est leur valeur principale. En plus, ce seront des mercenaires. Donc, du coup, ils sont, l'argent, c'est leur valeur principale. Ensuite, leur survie. Ensuite, éventuellement, celle des gens autour. Mais on vient de voir que la situation, évidemment, est beaucoup plus complexe et plus intéressante que ça.
Oui, moi, ça me permet de rebondir sur quelque chose que Fabien a dit en disant que le bâtard, il s'aime beaucoup en premier. La cresserelle, c'est pas tout à fait ça. Elle s'aime pas particulièrement. Elle se pose pas la question, mais effectivement, sa survie la préoccupe au plus haut point. Elle est pas. Elle estime que voilà, la personne la plus importante au monde, c'est elle, de son point de vue, et elle va toujours se faire passer elle-même en premier devant d'autres. Ça veut pas dire nécessairement qu'elle veut anéantir le reste de l'humanité, mais elle a une échelle de priorité. Et justement, la rencontre avec Mémoire et la découverte de des conséquences de ses actes va la faire réfléchir justement sur sa position dans l'univers. En fait, c'est un personnage qui estime qu'elle peut être détachée de l'univers dans lequel elle vit, en fait. C'est ça la dynamique du personnage, c'est que malgré tout ce qu'elle fait, malgré l'impact qu'elle a, elle essaye de vivre dans les interstices du monde, en quelque sorte. Et de vivre caché, paradoxalement. Et elle va découvrir évidemment que voilà, tout est constamment connecté et que quoi qu'on fasse, ça a un impact, même par effet domino, par effet papillon. C'est un personnage qui est très dans la recherche de solutions immédiates à ses problèmes. Elle est très très bonne à trouver des solutions immédiates à tous ses problèmes parce qu'elle est très compétente. Mais elle réfléchit pas toujours sur le long terme en fait. Donc elle va créer des effets de cascade en fait. Et d'enchaînement qui vont la faire réfléchir sur ça.
De cascades de sang, souvent.
Oui. Oui, si vous êtes... comment est-ce qu'on dit si on a la phobie du sang, c'est hémétophobe. C'est pas forcément le roman pour vous, mais c'est une magie. La magie utilisée par la cresserelle est une magie du sang, justement. Donc c'est souvent assez spectaculaire, le côté un peu grimdark dont parlait Ed. Pour ceux qui sont fans de Warhammer, par exemple. j'ai trop joué à certains jeux de rôle quand j'étais adolescent, je pense.
Le bâtard, lui, il va évoluer aussi un peu quand même dans sa façon de voir les choses, parce qu'il se rend compte finalement que parfois, même quand il gagne, il va gagner, et pourtant il y a des gens qu'il aimait bien qui vont mourir, et finalement au service de gens qu'il ne connaît pas ou qu'il n'aime pas spécialement. Et ça se voit assez peu, mais de temps en temps il réfléchit un peu à ça et il commence au fur et à mesure à se dire qu'il voudrait bien se ranger un peu des épées et peut-être passer à une vie qu'il espérerait plus calme, mais ça n'arrivera pas. Et de quoi
Non, c'était sur la question des valeurs, d'accord, la d'accord. Survie, l'échelle un peu des valeurs et
d'accord.
La façon dont on aperçoit les personnages, mais encore une fois.
L'échelle de valeur, c'est avant tout vivre le monde dans lequel il vit. C'est donc assez proche quand même de notre réel Moyen-Âge. Et donc, c'est une époque où on n'avait pas encore inventé l'idée de bonheur. Ça n'existe pas vraiment à cette époque-là au Moyen-Âge. Donc, les gens essayent de vivre, de faire effectivement ce qu'ils doivent faire ou ce qu'ils peuvent faire. Et c'est le cas du bâtard. Donc, il essaye de trouver sa place dans ce monde. Après, son échelle de valeur, il a bien sûr envie d'exister au maximum. Il a un certain ressenti vis-à-vis des gens qui l'ont poussé hors de son comté natal. Et il essaye de prouver que bien qu'il soit de naissance bâtarde, il est l'égal finalement des plus puissants politiquement, je veux dire, de ce monde. Et c'est sans doute ce qui le pousse quand même à continuer à faire cette activité qui, qui, qui le met dans l'ombre des puissants, mais qui en même temps le met quasiment sur un pied d'égalité avec les puissants. Et c'est sans doute ça qui est son moteur principal. Voilà. Mais ça reste quelqu'un qui respecte l'honneur, même si lui ne le pratique assez peu. Et voilà, c'est un homme de son monde.
J'ai l'impression qu'on est un petit peu sur quelque chose de différent, je trouve, sur le dieu oiseau.
Si, mais ça spoil à mort, en fait.
D'accord. Ne spoilons pas. Non, disons que Faolan fait des découvertes sur lui-même, mais c'est vrai qu'il se voit au départ un peu plutôt comme le héros, justement, de cette histoire qui a à se venger. Et en fait, il va découvrir des choses plus sombres, je pense, sur lui. Il me semble que c'est presque un peu la trajectoire inverse de certains des personnages.
Je sais pas forcément, parce qu'en fait, dans cette compétition, qui a lieu tous les 10 ans, c'est très ancien. Ça remonte à 500 ans. Donc ça fait 500 ans que tous les 10 ans, il y a une espèce de fête sanglante où le vainqueur peut assassiner, violer, tout ça. Et du coup, est-ce qu'on continue sur ce schéma-là, ad vitam aeternam? Est-ce qu'on continue tous les 10 ans de faire couler le sang comme ça dans cette espèce de fête barbare? Ou est-ce que il pourrait y avoir un champion qui, une fois, dise « stop, on arrête et on fait autre chose ». Et est-ce que les dieux réclament vraiment du sang, ou est-ce que c'est nous qui sommes totalement en train de déconner? Donc le personnage principal va pas mal se questionner sur ces valeurs répétitives de la tradition. Et ça, je pense que c'est quand même un point positif de sa psyché. Et après, sur son effondrement, sur sa trajectoire et son effondrement psychologique, oui, effectivement, c'est très noir.
Ed, une petite réponse sur les valeurs, l'échelle des valeurs?
Or not.
Priorities and values. I think that everyone's first priority is usually themselves, and how that comes across in what they do, whether they are selfless or selfish, is what defines how we get on with them. I always want to see my characters, no matter how bad, I always want that turning point at the end where they realize it's worth dying for something greater than yourself and being prepared to put themselves there.
Alors, les priorités, les valeurs, etc. Alors, je pense que, pour tout le monde, hein, la première priorité, c'est soi-même. Et c'est en fait... Il y a une chose qui définit comment on s'entend entre soi-même et qu'on s'entend avec un personnage, c'est combien il est égoïste et combien il est prêt à se sacrifier pour les autres. Et personnellement, je veux toujours, quand j'écris sur un personnage, qu'il y ait un changement, justement, où le personnage se rend compte que ça vaut la peine de sacrifier pour autre chose que soi-même.
Je pense qu'on a vu quand même toute l'amplitude de ces personnages, avec justement leur côté sombre et leur côté plus porteur d'espoir. Et je pense que c'est ça qui est, à mon avis, le plus fort et le plus intéressant dans vos personnages, c'est toute cette variété qu'ils ont. Donc, si vous en êtes d'accord, on va s'arrêter là. Et je vous rappelle donc que les auteurs sont sous la bulle du livre pour la dédicace de leur livre et pour parler avec eux, si vous voulez, sur les sujets propres à leur livre. Merci.